C'est 8 heures. Pour bien démarrer, Radio Campus 106,6 FM, l'Empirique contre-attaque, c'est parti.
L'émission qui fait pétiller vos neurones.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à l'Empirique contre-attaque. Pour cette émission, alors nous avons autour de la table plusieurs chroniqueurs et invités. Et donc pour commencer, vous avez entendu la voix d'Axel. Bonjour Axel.
Bonjour Virginie, bonjour.
Donc tu as enregistré avec Bertrand pour ce nouveau jingle d'introduction de l'émission L'Empirique contre-attaque.
Effectivement, c'est bien ma voix, oui.
Donc avec plaisir, on te retrouve pour cette saison. Ensuite, nous avons également Rabat que j'ai rencontré à diverses occasions, mais entre autres dans un atelier de lecture à voix haute. Et donc voilà, tu nous fais l'honneur de nous proposer une lecture sur le thème de l'émission qu'on dévoilera plus tard. Bonjour Rabat.
Bonjour tout le monde.
Alors, à distance, et donc avec des chroniques préparées, enregistrées, il y aura aussi Serge Reliant. Merci Serge, on pense à toi. Et également Bertrand Lefebvre, en toute fin d'émission, qui nous a préparé un petit teaser sur ses futures chroniques. On pense également à toi. Donc, pour introduire cette nouvelle saison, l'Empire contre-attaque se propose en fait de débunker un petit peu des fausses informations, en vous apportant des informations scientifiques, et donc avec un fil rouge, notamment donc pour vous donner des informations afin de définir votre trajectoire politique. Voilà, donc la politique, ce sera un peu le sujet principal de cette émission, avec donc pour invité Rémi Lefebvre, qui nous fait l'honneur de venir. Il est accoutumé à écrire dans les différents médias et être interviewé sur les plateaux de télévision. Donc, merci beaucoup, Rémi Lefebvre. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille.
Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec plaisir que je participe à cette émission.
Avant de dérouler l'émission, je vous propose d'écouter Brigitte Fontaine pour « J'irai pas ». Bertrand pensait en effet que ce serait une bonne introduction pour dérouler ensuite votre parcours.
J'irai pas me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. Votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook.
Alors, donc en fait, c'est un morceau où Brigitte Fontaine est énervée. Et en fait, elle parle de pas aller à l'école, de pas. Voilà. Et donc, pour commencer cette interview, on va parler de votre parcours. Et est-ce qu'il vous a amené à être énervée? En fait, à la base, vous avez fait.
Je suis énervée, donc du coup.
Okay. Non.
Moi aussi, je peux être énervée. Ok.
Donc en fait. Vous avez fait vous avez commencé par faire des études d'histoire. Est-ce que c'était déjà dans une projection de devenir politiste? Vous êtes politiste?
Ouais, bah pas du tout en fait. Non, après c'est pas du tout un hasard que je sois politiste, vraiment pas du tout, puisque je suis né dans une famille extrêmement politisée. Mon père est élu, toujours élu d'ailleurs. Donc j'ai baigné dans la politique très très tôt. Voilà, J'ai baigné dans les élections. Je me souviens très précisément de l'élection de Mitterrand en 81, des élections de mon père. Voilà, la politique, c'était très très important pour moi. Voilà, donc j'ai fait des études d'abord scientifiques, un bac C. À l'époque, quand on était bon élève, on faisait un bac C. Et puis après, j'ai fait des classes prépa littéraires, donc Hippocagne-Cagne. Et je voulais faire Sciences Po. Voilà, je l'ai pas eu tout de suite, donc j'ai fait une année d'histoire, voilà. Je suis rentré à Sciences Po Lille, et donc j'ai découvert à ce moment-là la science politique, et c'était une révélation totale. Vraiment, c'est vraiment la matière qui m'a complètement plu, parce qu'il y avait un côté à la fois politique qui me plaisait par rapport à mon parcours, et puis dans la science politique, il y a une dimension à la fois théorique et empirique qui me plaisait beaucoup. Voilà, et donc ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire de la recherche, et voilà, après j'ai commencé ma carrière. J'ai fait ma thèse à Lille, j'ai eu un poste de maître de conf à Lille. Ensuite, trois années plus tard, j'ai passé à l'agrégation de sciences politiques, puisqu'il y a une agrégation du supérieur, et donc je suis devenu prof de sciences politiques, j'ai été affecté à Reims. Et puis je suis revenu à Lille parce que je suis très attaché à Lille et que je suis dans un laboratoire qui est très dynamique et que là voilà qui me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est un peu pour ça. Donc une vocation, je dirais scientifique, mais aussi une fibre politique que n'ont pas forcément mes collègues. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire de la science politique sans aimer forcément beaucoup la politique, notamment la politique électorale, partisane, etc. Notamment chez les jeunes chercheurs, ils aiment pas souvent beaucoup la politique. Ils ont des convictions politiques, mais ils n'ont pas forcément le même rapport à la politique que moi.
D'accord.
Voilà.
Parce que du coup, ouais, en ayant baigné dans la politique, il y a eu quand même des surprises en découvrant les sciences politiques. Donc
oui, parce que c'est pas pareil. Déjà, la science politique, c'est une mise à distance des phénomènes politiques. Donc du coup, je pense que ça... Moi, j'ai toujours, sans faire de psychanalyse à deux francs, à deux balles, je pense qu'on a quand on a toujours des choses à régler quand on fait de la recherche, surtout quand on fait de la recherche en sciences sociales, il est évident que pour moi, c'était une manière de mettre à distance ma famille, mes relations. Voilà. Donc ça a été une manière aussi une forme de socio-analyse, quoi. Voilà. Donc effectivement, ça m'a aidé. Je pense que ma proximité avec la politique, évidemment, ça m'a donné une connaissance en fait des phénomènes politiques, et après la science politique m'a vraiment aidé à mettre à distance cette familiarité.
Okay.
Voilà.
D'accord. Alors, politiste, c'est analyser justement la politique, alors que les étudiants, eux, apparemment, ils aiment plutôt qu'on leur apprenne à définir des programmes politiques, non? C'est ça?
Pas vraiment, non. Non, non. En fait, alors la science politique, d'abord, c'est l'étude. Moi, je me définis comme sociologue, en fait, sociologue du politique. Voilà. Oui. Donc, pour moi, épistémologiquement, ma discipline, c'est les sciences sociales du politique. Alors que la science politique, qui est enseignée en faculté de droit, a longtemps eu un rapport, était très institutionnaliste et parfois était très proche du droit. Bon, depuis les années 1980, très clairement, la science politique s'est émancipée et est devenue plutôt une sociologie politique. Voilà. Donc, elle applique les phénomènes de la sociologie aux phénomènes politiques, c'est-à-dire à la fois les études quantitatives, qualitatives, l'entretien, l'observation, l'ethnographie, les archives, etc. Voilà. Et justement, puisque vous évoquez les étudiants, D'abord, là, ce qui est frappant depuis quelques années, c'est qu'il y a une science. Alors, il y a toujours une ambiguïté dans Sciences Po, parce que Sciences Po, quand on dit qu'on fait Sciences Po, hein, notamment au début c'était Paris et maintenant c'est les IEP, Sciences Po, c'est pas du tout que de la science politique. Hein. La science politique comme discipline est marginale dans les études quand on fait Sciences Po. Quand on fait Sciences Po, on fait du droit, on fait du droit, de l'économie, de l'histoire. Et de la science politique, mais on fait pas plus de sciences politiques que les autres disciplines. Mais ça s'appelle Sciences Po, c'est comme ça. Bon, donc la plupart des étudiants qui veulent rentrer dans un IEP ou même qui vont à la fac, ils ont une vision très très confuse de ce qu'on peut appeler Sciences Po. En général, c'est des étudiants qui sont très bons, qui trouvent que Sciences Po, bon bah ça fait bien. Et puis Sciences Po, ça donne une espèce d'ouverture sur la société. Voilà. Ça fait un peu, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais faire Sciences Po parce que ça va pas me fermer des portes. Et ils sont parfois un peu surpris de voir que, quand ils viennent à la fac, bah que c'est une discipline, quoi. C'est une science, en fait. Et donc, du coup, c'est pas simplement discuter de politique, c'est une science. Donc, avec tout ce que ça peut avoir de protocole, de théorie, etc.
Je pense que c'est vrai que même dans la société en général, pas que les étudiants, il y a une certaine confusion sur ce que ça veut dire vraiment concrètement. Ouais, c'est pas évident
à s'imaginer. En tout cas, on a de plus en plus d'étudiants et c'est notamment lié à la réforme du bac. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui devraient faire des sciences dures et qui viennent en fait à Sciences Po. Je pense que moi je vois beaucoup de gens autour de moi, de très bons étudiants en sciences qui, parce qu'ils veulent comprendre le monde, vont à Sciences Po. Voilà. Donc, on attire énormément d'étudiants. Les filières de Sciences Po à la fac sont très, très, très sélectives. C'est un étudiant sur 10 sur Parcoursup, pour donner une idée.
D'accord. Voilà. Parce que, donc, vous êtes partie des sciences humaines, plutôt, donc littéraire et puis histoire. Voilà.
Ouais.
Et donc, justement, l'histoire, est-ce que ça permet d'apprendre à analyser l'effet politique actuel ?
Oh bah évidemment. Alors moi d'abord, ce que j'aime dans la science politique, c'est que c'est une discipline carrefour en fait. C'est que c'est une discipline. Alors je vous ai dit qu'il y avait de la sociologie, mais en fait il y a aussi beaucoup d'histoire. On intègre l'économie. Moi, il y a une grande liberté dans la science politique, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'anthropologie, on peut faire de la sociologie, on est sensible aux phénomènes de territoire et donc de géographie. Et donc il y a notamment beaucoup de travaux historiques en sciences politiques. Et moi j'ai fait une thèse, ma thèse était une thèse de sociologie historique. J'ai travaillé sur le socialisme municipal d'un point de vue historique. Donc j'ai fait vraiment une thèse entre l'histoire et la science politique. Et évidemment, on peut pas comprendre les phénomènes présence sans les expliquer par l'histoire. La politique, elle est saturée d'histoire. Le clivage gauche-droite, il a une histoire. Le Parti Socialiste, il a un siècle. Le gaullisme, il est vieux. L'extrême droite a une histoire. Donc c'est évidemment les phénomènes politiques ne sont pas intelligibles si on ne restitue pas leur épaisseur historique. Ça, c'est sûr.
Alors, comme on évoque votre parcours, moi je me suis référée à Wikipédia. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une page Wikipédia. Est-ce que vous l'avez consultée et est-ce que vous assumez ce qui est indiqué en fait ?
Alors oui, non, mais je suis content, mais c'est pas du tout. Je l'ai découverte en fait cette page. C'était très curieux Wikipédia. Hein. J'ai découvert cette page et au départ, j'étais pas content parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai rédigée et j'ai eu du mal à la modifier. En fait, parce que c'est très compliqué. J'ai modifié plusieurs fois, c'était pas validé. Parce que c'est embêtant, hein, parce que quand vous tapez votre nom sur Google, vous tombez sur la page Wikipédia. Et donc, en plus, comme moi, effectivement, je suis assez médiatisé, les gens regardent beaucoup ma page Wikipédia. J'ai réussi à la modifier, mais alors, ce qui est embêtant dans la page Wikipédia, j'imagine que c'est ça que peut-être qui vous a alerté, c'est que mes engagements politiques sont très présents sur la page Wikipédia. Et du coup, mon activité scientifique qui est assez peu présente. Donc j'ai réussi là il y a quelques mois à modifier la page et donc à plus valoriser la vingtaine de bouquins que j'ai écrits. Donc voilà, parce que j'estime que c'est plutôt ça, même si peut-être qu'on va parler de mon engagement politique, hein, je sais pas du tout, je ne le renie pas du tout, mais dans la première version de la page Wikipédia que je n'ai pas donc rédigée moi-même, que j'ai découverte, il y avait beaucoup beaucoup de références à mon engagement politique. Voilà.
Oui, alors donc on va peut-être faire un intermède musical à nouveau, hein, avec une musique que vous avez proposée. Et puis on reviendra sur ces aspects justement d'engagement politique et comment on peut prendre de la distance ou pas pour faire plus une analyse en fait. Hein. Alors, quel est cet artiste ?
Alors, c'est Emiliana Torini, voilà, je crois que c'est son quatrième ou cinquième album. C'est une chanteuse d'origine italienne, voilà, que j'aime beaucoup, qui chante un espèce de folk un peu avec pas mal d'un peu d'électronique, voilà, c'est très, très délicat et fin, je trouve. Et donc, elle sera en concert au mois de novembre, au Grand Mix, voilà, qui est une salle qui m'est chère, une salle de musique actuelle à Tourcoing, voilà, que j'ai eu la joie de présider pendant une dizaine d'années, puisque c'est une association qui gère la salle. D'accord. Voilà, donc je vous invite à aller voir la très belle programmation de cette salle à Tourcoing, qui est en plus une très belle salle rénovée récemment avec un beau restaurant, un bar, etc. Donc c'est un endroit très sympa.
D'accord.
Voilà.
À faire. Merci. Alors, maintenant, Rabat, tu vas lancer la prochaine session avec un poème. Je t'en prie, c'est à toi, Rabat.
Oui, très bien, merci. Alors, le poème que je vous propose est intitulé « Démocratie participative ». Je l'ai trouvé sur le net. Il a été rédigé par une dame qui s'appelle Colette Ambrefeuille. Citoyens, manifestants, électeurs, consommateurs, exprimez-vous. Votre avis m'intéresse au plus haut point. Vous tous qui levez le poing, les frustrés, les incompris, vos attentes, vos rancœurs occuperont tout mon temps. C'est que la démocratie devient participative et sur tous les sujets vous interroge. Faut-il briser le silence au nom de la transparence ? Voulez-vous que l'on proroge, avant que le terme arrive, la durée de votre vie ? Référendum aujourd'hui, le quatrième du mois. Car il s'agit de choisir, après les fonds supprimés au budget des députés, puis l'âge où ne plus vieillir, et le prix des petits pois, l'heure où tombera la nuit. Adieu, commune souffrance, ces choses à présent normales que de convoiter la chance d'un collègue ou d'un intime. Et rien n'est plus légitime que de réserver d'avance sur tablette digitale la météo des vacances. Exiger, revendiquer, coup de tête, coup de cœur, je prends tout, je m'en repais. Sur le prénom du bébé dont la star vient d'accoucher, sur la guerre ou sur la paix, et jusque sur la couleur de mon pupitre, votez. S'il vous plaît mon bavardage, si vous berce, vous enchante ces promesses toutes faites, qu'importe qu'il soit mirage, je l'ai fait à votre image. Si très satisfait vous êtes de ces lendemains qui chantent, rejoignez-moi sur ma page. Oui, c'est vous qui décidez. Mais si jamais vous cliquez sur « pas satisfait du tout », je vous en voudrais beaucoup.
Merci Rabat. Alors, tu avais hésité avec un autre texte, mais il était un petit peu trop long. Tu pourrais peut-être en parler quand même.
C'est un chapitre d'un bouquin qui est rédigé par un monsieur qui s'appelle Roger Su, à Nessé. Donc, Roger Su est un sociologue. Le titre du bouquin, c'est « Pourquoi sommes-nous si mal représentés ?» Il y a un sous-titre « Le réveil citoyen ». Voilà, le texte est trop long, donc je ne l'ai pas,
pas voulu. Mais à lire, tu le conseilles. Alors, donc, en fait, l'idée, c'est de parler de cette démocratie participative où le citoyen a sa place pour, finalement, participer à la définition des politiques. Et il me semble que vous avez travaillé, donc, Rabat et vous, Rémi Lefebvre, sur des sujets concrets à sur la métropole lilloise, hein, pour impliquer les citoyens, c'est ça ?
Sur l'ensemble de la région.
Sur l'ensemble de la région, carrément. Merci.
Du temps où elle s'appelait Nord-Pas-de-Calais et non pas Hauts-de-France. C'était il y a presque 10 ans.
Donc. Alors, est-ce que... Donc il faut être élu pour... vous étiez élu, hein, c'est ça, Rémi Lefebvre, à ce
moment-là. Oui, mais là, je n'ai pas du tout agi en tant qu'élu. Hein.
D'accord, ok.
Oui, bah, allez-y, parce que c'est un peu... J'ai été élu par ailleurs à côté à la démocratie participative. Mais,
D'accord.
Bah, je ne sais pas, vous voulez dire un petit peu comment...
expliquer comment, en fait, les citoyens peuvent participer, en fin de compte, là, à cette démocratie participative.
Oh là, c'est une vaste question là, que vous me posez. D'abord, peut-être, parce que je pensais qu'on allait parler de mon engagement...
Politique, oui.
Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que la particularité de mon parcours, c'est que j'ai une activité de chercheur académique. Donc, concrètement, je publie des bouquins dans des revues, etc., donc, qui n'ont pas forcément beaucoup de diffusion, hein, qui ont une diffusion essentiellement dans le milieu de la recherche. Mais c'est vrai que j'ai une fibre plutôt de chercheur engagé et politisé. Hein, c'est-à-dire que j'ai la faiblesse de penser que la science politique et les sciences sociales du politique peuvent aider à transformer la société. Voilà, donc effectivement, je valorise aussi une posture de chercheur engagé sur toute une série de questions. Bon, d'abord concrètement sur la question de la gauche, parce que moi je me définis comme de gauche et que je suis je suis universitaire de gauche. Donc j'ai pu publier un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle Faut-il désespérer de la gauche, qui est vraiment même si ça appuie sur la science politique, un ouvrage engagé. Et puis parallèlement, donc j'ai été longtemps militant politique au PS jusqu'en 2018, et puis je me suis pas du tout retrouvé dans François Hollande, donc je suis parti, mais je continue en fait à écrire dans des tribunes assez engagées dans la presse. Et puis par ailleurs, effectivement, j'ai été élu dans le mandat 2014-2020. À la démocratie participative dans la ville où je suis, à LM. Donc, parce que je crois vraiment à la démocratie participative. C'est-à-dire, je crois aujourd'hui qu'il faut renouveler les formes de démocratie, que la démocratie représentative est plus du tout adaptée à nos sociétés, aux attentes des citoyens. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, Rabat, donc, quand tu étais chargé de mission à la démocratie participative, au conseil régional, tu m'as associé à ta définition de la politique. On a fait beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai participé aussi à l'observatoire d'observation, par exemple, de jurys citoyens. Il y a eu des démarches avec mes étudiants d'analyse des conseils de développement, de mise en place d'une autorité du débat public. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont parfois pas bien marché, bon, qui aujourd'hui ont été carrément défaits, qui n'existent malheureusement plus parce que l'actuel président du conseil régional n'est pas du tout branché démocratie participative. Voilà, et donc effectivement, pour répondre à votre question, il faut aujourd'hui... Alors, la démocratie participative, ça existe depuis longtemps au niveau local, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu stagnante. Elle suscite beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de citoyens qui estiment qu'on leur fait miroiter un droit à la participation qu'on n'applique pas vraiment. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Alors, par ailleurs, ça ne m'empêche pas du tout d'écrire des articles très critiques sur la démocratie participative. Hein. Donc, je suis pas du tout... je pense que c'est pas du tout exclusif. Hein. On peut défendre la démocratie participative et analyser ses écueils scientifiquement. Voilà, moi, j'ai beaucoup écrit dans une revue qui s'appelle Participation, qui est une revue très scientifique, hein, avec des comités de lecture, des évaluateurs et tout. Donc voilà, je pense qu'on peut tout à fait avoir une démarche scientifique, objective, et à côté, en s'appuyant sur les résultats scientifiques, défendre une conception normative de la démocratie, c'est-à-dire de dire, j'étudie la démocratie telle qu'elle est, Mais à travers mes travaux, j'essaie aussi de définir ce qu'elle pourrait être ou ce qu'elle devrait être. Voilà.
D'accord. Et donc, d'appliquer ça vraiment concrètement, est-ce que c'est expérimental, finalement? Est-ce qu'il y a un retour à chaque fois, c'est réflexif, hein? On analyse, on propose, on pratique, et après, on fait évoluer les choses, hein?
Bah, par exemple, je vais prendre un exemple concret, parce que ça, c'est d'ailleurs qui a pu poser des problèmes. Donc, le conseil régional avait mis en place des jurys citoyens. Bon, des jurys citoyens, c'est un petit peu, on connaît la Convention citoyenne sur le climat. Mmh. Jurys citoyens, c'est, on tire au sort 15 personnes, et on les fait bosser pendant plusieurs week-ends sur une question. Voilà, c'est passionnant à observer. Donc, le conseil régional m'avait demandé de produire une note d'observation sur ces jurys. Comment ça se passe entre les participants, avec l'équipe d'animation, avec les élus, etc. Donc, j'en ai fait une note pour le conseil régional, où en fait l'idée c'était aussi d'améliorer ce dispositif. Bon, par ailleurs, j'en ai fait aussi un article dans une revue qui était assez critique. D'ailleurs, il y a eu des personnes au conseil régional qui n'étaient pas contents, parce qu'on dit oui, mais alors du coup tu critiques le dispositif. Ah ouais, mais non, mais non, moi j'ai tout à fait le droit, je fais ce que je veux. Scientifiquement, je fais ce que je veux, et donc je pointe ce qui ne va pas. Voilà, donc c'est parfois un peu compliqué.
Oui.
Hein, c'est parfois un peu compliqué, parce que le regard de sociologue est très critique, hein, forcément.
Ouais.
La sociologie est critique. Elle met en avant des choses que les gens veulent pas qu'on dise, en fait.
Hein, oui, oui.
Bourdieu disait la sociologie est un sport de combat, ça c'est clair, c'est absolument évident.
J'adore.
Donc moi, en général, quand les gens qui lisent mes bouquins, ils disent « Ah non, tu peux pas dire ça !» Ben si, c'est vrai, donc je le dis.
Ouais.
Donc après, je le dis, mais par contre, ça veut pas dire que je le dis et puis démerdez-vous.
Oui.
Pardon. Je le dis, mais après, on essaie d'améliorer les choses.
Mmh.
Voilà, donc je suis pas. Moi, je pense que. Peut-être que c'est naïf, mais si les travaux de sciences sociales restent confinés aux chercheurs, c'est très important, les chercheurs, ça va pas. Moi, ça me va pas. Il faut que ça serve un peu plus, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas dire les choses.
Oui, voilà. Oui.
Bon.
C'est un peu, moi, ce que je reproche. Hein. J'ai entendu des élus récemment et je trouvais que. En fait, ils se disaient que tout ce qu'ils avaient fait, c'était très très bien, très très bien, très très bien. Par exemple, sur les enjeux environnementaux, je trouve que c'est pas si bien que ça. Je veux dire, c'est pas suffisant. Et donc là, l'aspect critique, c'est important. Est-ce que ça peut être entendu? Est-ce que
c'est très compliqué. Hein. En général, ça c'est un peu désespérant, c'est que les élus d'abord, ils produisent parfois des rapports, ils les lisent pas. Ils font. Et puis en fait, les élus, effectivement, bon. Bon, ça c'est un autre débat, mais je trouve que malheureusement, ils lisent pas beaucoup. Ils sont vachement dans l'urgence, dans l'action, dans les réseaux sociaux. Et parfois, ils devraient réfléchir un peu plus. Hein. Je sais pas, bon, par exemple, moi j'ai produit, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Là, j'ai produit une note avec un chercheur belge qui s'appelle Arthur Boriello sur comment on peut faire évoluer les partis de gauche, notamment la France Insoumise, qui est un parti intéressant, mais qui n'est pas très démocratique. Donc, on a produit une note qui est vraiment une note de. On s'appuie sur nos travaux sur les partis, mais on essaie de dire comment on peut les transformer. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de retours de cette note. Bon, François Ruffin l'a lu et l'a diffusée et m'a invité à en parler lors d'un rendez-vous qu'il a organisé à Fixecourt. Mais en fait, en gros, il y a beaucoup d'élus qui ne lisent pas, en fait. Et, c'est-à-dire qu'en fait, alors qu'ils pourraient se nourrir en fait, des travaux de sciences sociales, que ce soit sur la démocratie participative, sur plein de choses. Bon, alors, heureusement, la... Quand même, on a l'occasion dans la presse, dans les médias, de valoriser nos travaux. Hein. Donc je joue ce jeu-là, effectivement. Voilà, moi, j'hésite pas à me médiatiser parce que je pense aussi que c'est une manière de diffuser les travaux. Alors même si c'est pas toujours facile, parce que c'est pareil, les journalistes tendance à pas faire toujours très bien leur boulot et à caricaturer un peu ce qu'on peut dire.
D'accord, merci. Donc, on va passer. Axel, voilà, je t'en prie. Tu as une chronique à proposer.
Ah oui, alors, vous avez écrit un livre, Rémi Lefebvre. Vous l'avez mentionné, même plusieurs, hein, une vingtaine, vous avez dit. Donc, déjà, bravo. mais là, je vais parler du livre que vous avez co-dirigé, Série politique, Le pouvoir entre fiction et vérité, paru chez Deux Books Supérieurs en 2020. En bonne chroniqueuse littéraire, je ne l'ai pas lu. Voilà, comme ça c'est dit. Donc je vais en partie me référer au compte-rendu fait par Sébastien Séga et Bernard Perical. Et en fait, je vais surtout parler de moi. Voilà. Bon alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce livre-là en particulier, me direz-vous ? Parce que faut dire que les autres non plus, je ne les ai pas lus. Hein, vous m'en voulez pas, Rémi FM, ça va ?
Pas de problème.
Alors ce livre, Série politique, le pouvoir entre fiction et vérité, parce que ça ressemble un tout petit peu à un livre que j'ai écrit moi. Je vous avais dit qu'on allait parler de moi. Un livre d'une petite centaine de pages, imprimé en 3 magnifiques exemplaires, avec des erreurs de numérotation de pages. Mon mémoire de recherche de master. Alors je sais, on voit d'ici les très nombreux points communs entre les deux ouvrages. Hein. Ouais, c'est bon. Non, je vous jure, il y en a vraiment. Par exemple, mon mémoire s'intitule « Expertise et pédagogie dans les séries de fiction, Grey's Anatomy comme étude de cas ». Allez, c'est presque pareil. Pour les auditeuristes récurrents, j'en ai déjà parlé, je sais, mais pas de cette façon, donc laissez-moi finir. Bernard Perical dit, en citant la page 6 de votre ouvrage, que les 14 auteurs se plaisent à transformer leur intérêt personnel pour les séries comme spectateurs en un savoir savant, convoquant divers registres d'analyse propres aux sciences sociales. C'est un peu ce que vous avez dit aussi à propos de la politique. Je ne l'aurais pas mieux dit. Hein. Des scientifiques qui regardent la télé, ils sont comme nous. C'est marrant, moi, c'est en analysant les séries que j'ai voulu faire des sciences sociales. C'est un peu l'inverse. Du coup, c'est ce que j'ai fait pour Grey's Anatomy quand je me suis rendu compte que la série avait vraiment changé de ton et qu'elle avait désormais un propos clairement politique. Et oui, Grey's Anatomy, le feuilleton à l'eau de rose, qui en est à sa 20e saison depuis 2005. Entre deux intrigues amoureuses et quelques cas médicaux farfelus, la série s'attelle à des choses bien plus réelles, comme la question du droit à l'avortement aux États-Unis. Pour ça, elle utilise son aura d'expertise médicale pour pouvoir faire de la pédagogie. Ça y est, vous comprenez le titre de mon mémoire maintenant, c'est bon. La série peut alors transmettre des informations de santé publique à destination de toutes, et surtout toutes, comme par exemple les risques liés à un tel traitement, le déroulement de telle procédure médicale, etc. Elle peut aussi en profiter pour s'adresser directement à des politiciens qu'elle juge éloignés de la réalité concrète du terrain. Mais en plus des discours assez directs, on retrouve également quelques tentatives militantes de montrer l'exemple, notamment dans le domaine des violences obstétriques et gynécologiques. On voit alors des médecins à l'écoute, expliquant les traitements, procédures et outils, répondant aux questions sans jugement et surtout sans exercer une quelconque forme d'autorité sur le corps ou sur les choix de la patiente. Sans que cela soit dit ou dénoncé, le message est passé. Bien entendu, à côté de ces scènes apaisées, arrivent toujours des scènes ultra dramatiques servant parfois un propos politique. L'air de dire « Voyez ce qui se passe quand les politiques prennent des décisions nulles ?» Mais, et là je reviens un peu à vous Rémi Lefebvre, Sébastien Séga conclut à partir de vos analyses que les contraintes de la mise en scène et de la narration, et notamment le souci de ne pas ennuyer ou de ne pas perdre le spectateur, contribuent à déformer la réalité politique représentée. Et ce, quelles que soient les prétentions plus ou moins documentaires de ces fictions qui mettent souvent en avant une approche réaliste. En résumé, gardons toujours un œil critique sur les œuvres fictives qui peuvent nous renseigner sur une situation politique tout en la déformant. Pour finir, Sébastien Séga dit que votre livre est un ouvrage intellectuellement stimulant et très agréable à lire. Je veux bien le croire. Donc, à quand un livre sur la politique dans les séries médicales ? Si l'envie vous prend, pensez à moi.
Merci.
Alors oui, donc les séries, quoi. Moi j'étais surprise parce que ma fille qui est assez jeune a vu En Place et ça lui a donné de l'intérêt pour la politique. Il y a aussi donc deux autres séries, Baron Noir et La Fièvre. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire de ces séries en fait ? Est-ce que vous...
Alors, je suis un gros consommateur de séries.
Ah oui.
Donc, c'est aussi pour ça que l'idée de ce livre m'est venue. Mais en fait, l'idée de ce livre est venue avec une révélation qui était la série Baron Noir, qui est une série absolument remarquable. vraiment remarquable sur la politique, qui a été un choc, quoi, quand j'ai vu les trois saisons. Un choc parce que c'est une série d'une très très grande finesse et d'une très très qui témoigne d'une très bonne connaissance du monde politique. Et donc c'est troublant quand on regarde cette série, parce que quand on est politiste et qu'on connaît en plus la politique comme militant, on se dit oh là là, c'est vraiment d'une très très grande richesse, c'est très juste sur plein de choses, sur les comportements des acteurs, leur vie privée, les stratégies, les collaborateurs, etc. Bon, c'est quasiment une série documentaire, et en même temps c'est une série très haletante, très bien écrite. Et en fait voilà, j'ai rencontré celui qui a écrit cette série, il s'appelle Éric Benzekri. Bon, qui, alors c'est pas un hasard, hein, qui connaît le monde politique par cœur. Il a travaillé avec Mélenchon, avec Julien Dray. Il est fou de politique, et il est fou de série aussi. Et donc voilà, j'ai eu une réflexion un petit peu sur qu'est-ce que nous disent les séries de la politique, qu'est-ce qu'ils nous disent pas, et puis surtout en quoi les séries peuvent être utiles pour le regard des sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a des séries remarquables comme The Wire, plein de séries remarquables qui sont en fait des séries qui peuvent avoir une approche du monde politique qui est ou bien proche de celle des sciences sociales, parce que parfois nourrie des sciences sociales. Hein, celui qui a écrit The Wire, il avait lu énormément de sociologie. Éric Benzekri, il lit beaucoup aussi de sciences politiques. Ou bien de déplacer un petit peu le regard qu'on peut avoir sur l'objet politique. Voilà. Donc, et puis effectivement, alors Éric Benzekri a depuis sorti une nouvelle série qui s'appelle La Fièvre. Alors là, j'étais moins enthousiaste. Et là, par exemple, j'ai participé aussi à un travail de la Fondation Jean Jaurès qui a proposé à une vingtaine de personnes qui ont vu La Fièvre, des hommes politiques, des philosophes, des chargés de com, de réagir à cette série. Et donc, les textes sont disponibles en ligne sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et c'est passionnant parce qu'en fait, ce qu'on voit, et c'est ce que dit Sandra Laugier, qui est une philosophe qui adore les séries, donc qui fait qui écrit des trucs magnifiques sur les séries et qui considère en fait que les séries, on fait de la politique dans les séries, on parle des séries, du coup on parle de politique, et qu'en fait les séries c'est un petit peu des œuvres qui participent au débat public. Et effectivement, La Fièvre, c'est une série géniale à certains égards, plus discutable à d'autres, qui en fait réfléchit sur la question des questions identitaires. Et donc qui en fait projette des personnages et puis du coup ça fait réagir et ça fait parler et ça fait débattre, et c'est génial parce que du coup ça devient un objet politique puisque ça suscite du débat et donc voilà, je trouve que vous dites que votre fille elle a regardé En Place, je suis en train de regarder cette série qui est vraiment intéressante, qui est très drôle en plus. Bah, ça peut être une manière pour les jeunes de s'intéresser à la politique autrement que par d'autres biais, donc du coup c'est des vecteurs de politisation, et c'est génial, c'est vraiment très très bien. Et donc je trouve que c'est aussi un très bel objet de sciences sociales, les séries.
Dozen white vampires under a strawberry
Quelques mots sur ce titre,
Camille. Oui, bah, c'est un artiste que j'adore qui s'appelle Nick Cave, voilà, qui vient de sortir un nouvel album. C'est un artiste australien que je suis depuis très longtemps. Voilà, qui, là, son dernier album est un peu plus joyeux que les albums précédents parce qu'il a perdu son fils, donc il avait sorti des albums assez, assez bouleversants. Et donc là, l'album est plus. Bon, c'est pas très joyeux non plus, mais c'est un très beau disque, voilà, de Nick Cave. Merci. And the Bad Seeds, c'est son groupe.
Alors maintenant. La chronique de Serge, et donc il faut bien écouter les questions de Serge, elles sont costauds.
Ben bonjour tout le monde, voilà, donc bonjour Rémi, t'as affaire à une sorte d'admirateur distant. Voilà, donc je voulais te poser quelques questions, c'est une chronique de questions en fait, avec quelques affirmations qui arrivent à des questions, voilà. Donc, par exemple, pour avoir lu Cornelius Castoriadis, pas celui de Socialisme et Barbarie, hein, celui du monde morcelé, donc pas le trotskiste, mais le psychanalyste. J'ai vu deux définitions de la politique ou du politique. Et donc l'une disait que bah, c'était la manière un peu machiavélique et stratégique d'arriver au pouvoir, donc l'absence de valeur, les manipulations, enfin voilà, tout un truc... de Machiavel, enfin tout un truc d'hypocrisie ou de séduction. Et puis l'autre, c'était la gestion de la cité, les choix politiques, la païdéia, c'est-à-dire l'éducation chez les Grecs, chez Michel Foucault, par exemple. Et donc, voilà, je voulais savoir ce que t'en penses. Est-ce qu'on serait pas plutôt dans une vision de la politique très machiavélique, très opportuniste, très égoïste aujourd'hui, et au détriment du fond et du projet? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ayant eu beaucoup d'affection pour l'école de Francfort étant jeune, et en particulier le lien entre fascisme et consommation que fait Marcuse, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'aujourd'hui, l'approfondissement de la société de consommation et médiatique crée un absolu vide démocratique? Et donc, par exemple, je peux dire que je connais quelques étudiants qui étudient les Sciences Po ici ou là, et souvent ils connaissent Carl Schmitt et ils connaissent pas l'école de Francfort. Ça m'inquiète beaucoup. Et je voulais savoir que si les études de Sciences Po se sont pas orientées dans un sens plutôt machiavélique et stratégique, plutôt que portant sur les valeurs. Voilà, donc c'est des questions, évidemment. Et bon, je conclurai peut-être avec une dernière question pour pas être long. Il y a, comme tu le sais, Nicolas Postel et David Robert Dufort qui ont fait publier le troisième livre de la collection Transition dont je suis à l'origine. Et ils ont écrit, à la fin du livre, qui est sur Utopie ou effondrement, ils se sont demandé si on n'était pas en 1932. Voilà. Donc, dans la série de mes questions, je te demande, est-ce qu'on n'est pas en 1932 et à la veille d'un nouveau basculement vers les forces extrêmes et violentes? Voilà. Et puis aussi, parce que Virginie est là et puis qu'elle m'a titillé, elle sait que Nouveau Front Populaire, pour moi, n'a pas gagné. Bon, il n'a pas la majorité absolue. Voilà, donc je dis, il y a aucune raison qui dirige le gouvernement, ni que qui que ce soit puisse diriger le gouvernement des 3-4 blocs. En tout cas, ça arrive à quelque chose de cocasse, c'est les Républicains qui ont fait 6-7% des voix qui dirigent, donc c'est encore pire. Mais en tout cas, voilà, un peu aussi comme en Allemagne de l'Est, en Thuringe ou en Saxe, où l'AFD fait 30-32% des voix, on a l'air de donner une importance à celui qui est en tête et non pas à celui qui gagne. Comme si le vainqueur était, comme en Angleterre, celui qui arrive premier, comme s'il n'y avait pas de conception majoritaire de la politique. Et ça, je trouve ça inquiétant. Est-ce que la politique n'est pas tombée dans le showbiz, un peu comme les Jeux Olympiques, c'est-à-dire il y a les gagnants et les perdants, et c'est celui qui est premier qui est devant qui a gagné, alors que c'est pas la majorité de ceux qui sont en équipe qui gagnent. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans un individualisme stratégique au détriment du fond, et donc est-ce qu'on serait pas en 1932 quelque part?
Ben merci beaucoup à Serge. Alors là, j'ai 2 heures pour répondre aux questions ou je réponds quelques éléments de réponse. Est-ce que les deux définitions de Castoriadis, j'ai pas pu prendre de notes, donc je vais donner de mémoire, la politique machiavélienne et la politique des valeurs. En fait, malheureusement, j'ai tendance à penser que la politique, ça a toujours été un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire que la politique, c'est pas seulement que des idées, c'est aussi la lutte pour le pouvoir. Et pour défendre ces idées, il faut gagner le pouvoir. Donc c'est ça aussi qui est... C'est la dualité et l'ambivalence de la politique. Oui. Mais il faut forcément être stratège et être machiavélique pour défendre ses idées. Donc la politique, c'est sale, en fait. Ouais. C'est forcément sale. C'est pas possible que ça soit pas sale. C'est tragique, hein, comme définition.
Bah oui.
Mais c'est pas possible. Ça n'existe pas, les idées pures qui... Y a tout... Donc il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Après... Mais ça ne marche pas. Hein. Il faut conquérir les électeurs, donc il faut séduire. Donc et un peu, sans doute... Et c'est même sûr que l'équilibre entre les deux se fait de plus en plus en faveur du machiavélisme. Ça, c'est clair. C'est clair pour plein de raisons que je peux pas évoquer, mais c'est aussi parce que les idéologies se sont affaissées, la politique est devenue une carrière, etc., etc. Bon. Deuxième question, le consumérisme, l'école de Francfort. Bon, c'est des choses qu'on n'enseigne plus trop. L'école de Francfort, Marcuse, Habermas, Adorno, c'est l'idée que les sociétés sont aliénées par la consommation, le capitalisme. C'est toujours assez juste.
Bon, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de travaux qui montrent que le consumérisme, c'est très très compliqué de changer la société, de faire qu'elle est de migrer vers la transition écologique quand on est littéralement intoxiqué, tous d'ailleurs par la consommation, le consumérisme, etc. Donc c'est d'ailleurs un énorme problème pour la gauche de manière générale. C'est qu'en fait la gauche, elle demande des sacrifices en fait. Elle demande la sobriété, la frugalité, mais les gens ils veulent pas ça, pas du tout. Les gens ils veulent se gaver en fait. Hein. Et ceux qui en ont plus veulent se gaver encore plus, et ceux qui ont pas assez, ils veulent obtenir les dernières baskets, et parfois c'est légitime aussi qu'ils obtiennent des meilleures conditions de vie. Voilà, donc effectivement, bon, je vais vite, hein. Et puis sur est-ce qu'on est en 32? Je sais pas. Oui, il y a beaucoup de points communs, hein, avec la situation, et c'est très clair. Là, Serge a évoqué les scores de l'AFD en Thuringe. Là, ils ont obtenu un land là maintenant. Hein. C'est dramatique. La situation est dramatique et l'extrême droite progresse partout. Hein. Trump aux États-Unis, l'Italie qui a basculé, la France 10 millions d'électeurs du Rassemblement National. Bon, c'est très inquiétant, c'est une lame de fond des sociétés. Bon, je veux pas décrire. Et puis oui, c'est vrai sur moi je pense aussi que la gauche elle a pas gagné en fait. Je suis d'accord avec Serge, mais par contre, elle aurait dû être appelée à diriger le gouvernement, parce que c'est pas parce qu'elle a pas gagné majoritairement, la règle ça aurait été de lui proposer d'aller au gouvernement et puis de se planter. Elle se serait plantée parce qu'elle n'aurait pas eu la majorité. Mais ça, symboliquement, c'était quand même important qu'Emmanuel Macron reconnaisse que la gauche était en tête et l'appelle à gouverner. Même, et c'était pas à lui de juger de la viabilité d'un gouvernement Castex. Bon, très clairement, s'il a refusé, il faut être très très clair. C'est qu'il avait peur que Lucie Castex prenne des décrets sans vote de l'Assemblée. Et donc, ce qu'on voit très très bien, et c'est très très grave, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas veut empêcher toute remise en cause de sa politique économique. Hein. On en est vraiment là. Hein. Là, hier, il a empêché des députés d'obtenir des lettres de cadrage. En fait, il y a un vrai problème là. On est dans un régime autoritaire. Hein. Enfin, vraiment. Hein, on est dans une démocratie illibérale. C'est très, très grave ce qui est en train de se passer. Et voilà, c'est très inquiétant. Hein. Beaucoup de gens s'en rendent pas compte, mais effectivement, là, on est dans un vrai recul démocratique extrêmement inquiétant. Voilà.
Oh, d'accord. Justement, vous avez publié un article dans le Vieux Esprit qui parlait des temps de campagne, de temps qui permet aux citoyens de décanter des questions politiques. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots, hein? Ce temps de campagne après dissolution, il n'a pas tellement eu lieu, en fait.
En fait, l'article, c'était... ça, c'est vraiment une impression que j'ai depuis quelques élections. Alors, l'article de Esprit, il a été écrit au moment des élections européennes. La rédaction m'a demandé d'introduire 2-3 phrases parce qu'il y a eu la dissolution et c'était pas du tout prévu. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a plus de campagne électorale. Les campagnes sont de plus en plus tardives, intéressent de moins en moins les gens. Il y a de moins en moins d'acteurs sur le terrain. Et donc, du coup, même le moment... Donc, il y a une forme de dépolitisation dans la société, mais même au moment des campagnes qui sont censées être un moment d'effervescence, en fait, les gens ne sont pas plus réceptifs. Et donc, c'est comme si, en fait, finalement, de plus en plus de citoyens ne croyaient plus du tout à l'élection. Alors, là, c'est vrai qu'il y a un petit contre-exemple quand même. Alors, la dernière, suite à la dissolution, effectivement, il n'y a pas eu de campagne parce que ça a duré 3 semaines. Enfin, quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont mis en campagne, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont allés voter. Ça veut dire, moi, l'enseignement que je tire, c'est que quand il y a un vrai enjeu, les gens vont voter. Il y a eu quand même 70% des gens qui sont allés voter à une élection législative. On n'avait pas vu autant de participation aux élections législatives depuis 2002. C'est-à-dire depuis avant le quinquennat et la version du calendrier présidentiel. Ça veut dire que, bon, même si 70%, c'est pas énorme en termes de participation, enfin, c'est quand même pas mal. Et ça veut dire que quand il y a des enjeux, et en l'occurrence, là, l'enjeu, c'était l'extrême droite, hein, ce qui a fait voter aussi des électeurs. Il y a des électeurs qui sont allés voter parce qu'ils pensaient que l'extrême droite allait gagner. Hein. Et ceux qui voulaient empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, ça veut dire que les gens sont peut-être... Quand il y a un enjeu, ils sont capables de s'intéresser à la politique et aller voter.
D'accord, merci.
Quand il y a une impression de choix aussi, peut-être.
Tout à fait. Ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose à trancher, en fait. Ouais. Voilà.
Merci. Donc, du coup, la démocratie participative, hein, qui voulait être un peu le fil rouge de cette émission, je pense que du coup, les gens vont plus être attirés par ce qui est possible de faire.
Et donc, pour terminer cette émission, alors merci beaucoup à Axel Fer,
Rabah
Gouram, Rémi Lefebvre, donc Serge à distance, et maintenant donc le teaser des prochaines chroniques de Bertrand.
Bon, c'est à moi, je me lance. Alors voilà, un soir d'orage, ça c'est juste pour la tension dramatique, j'ai eu l'idée d'une chronique autour d'un thème scientifique qui serait à la fois un moment où on sourit et où on apprend des choses pas totalement inutiles pour notre vie quotidienne. Mais tu sais ce que c'est, auditoris. On va se coucher avec une idée géniale et on se réveille avec le sentiment de se trouver face au vide. Est-ce que ça existe, un thème scientifique où les différents degrés de dinguerie coexistent avec la rigueur de l'analyse? Alors oui, il y a les prix Ig Nobel, ces pastiches de prix Nobel décernés aux recherches à première vue farfelues. Il y a aussi les délires complotistes. Mais pff, ils ne sont amusants qu'à de rares exceptions près. Non, il me fallait autre chose. Dans une vie antérieure, je suivais les analyses des effets thérapeutiques de traitements médicaux. Et il m'arrivait encore de m'y plonger. Et là, j'ai découvert le monde enchanté de ce qu'il est convenu d'appeler les médecines alternatives ou alors non conventionnelles. L'art-thérapie, l'auriculothérapie, le décodage biologique, la fasciathérapie, l'hypnose ericksonienne, la médecine anthropomorphique, la médecine intégrative, la méditation de pleine conscience, la naturothérapie, la réflexologie, la sophrologie, la thérapie transgénérationnelle, etc., etc. L'angoissé de la page blanche que je suis, avec ce mythe de source, qui sont des trésors d'informations détaillées sur ce thème. Une prise de position de l'Ordre des médecins de juin 2023, portant entre autres sur une synthèse des conclusions des études faites au niveau mondial ces 10 dernières années. Et une seconde émanant de l'Ordre des infirmiers, qui en plus détaille fiche par fiche les résultats obtenus pour chacune de ces pratiques, j'ai du mal à dire thérapeutiques, à leur sujet. Tout est disponible sur leur site. Je poserai donc chaque mois la question toute simple, qu'est-ce que la science dit de telle pratique? On fera le point sur les connaissances. Libre à toi, auditeurice, de continuer à y croire ou pas. Il n'est pas question de porter un jugement sur ta manière de gérer ta santé. Mais je te promets des moments, disons, surprenants, les dingueries, et des instants de découverte ou pas, des méthodes scientifiques qui permettent de conclure à l'efficacité d'un traitement. Voilà, j'ai trouvé le trésor qui alimentera cette chronique. Et il lui fallait un nom à cette chronique. Ce sera le trésor du Captain Flint. Pourquoi le Captain Flint? Il faudra attendre le mois prochain pour le savoir. Et peut-être Flint viendra-t-il lui-même nous l'expliquer.